France Culture.
France Culture, être et savoir. Louise Touret.
Et bienvenue dans Être et Savoir, le magazine de l'éducation de France Culture. Aujourd'hui, protéger les enfants en leur enseignant leurs droits. Comme chaque année, le 20 novembre, c'est tout proche, marquera la Journée internationale des droits de l'enfant. Cela donnera lieu à la publication d'un rapport du Défenseur des droits en 2025. Le sujet sera la justice et il en sera question dans notre prochaine émission. Donc on fera deux émissions sur les droits de l'enfant. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'éducation des enfants et des jeunes à leurs droits. Et pour ce faire, je me suis intéressée au travail de l'artiste et activiste Maëlane Chapiron. D'abord grâce à un livre jaune avec un bandeau rouge. Sur le bandeau, la photo de l'auteur Édouard Durand, présenté comme le juge qui parle aux enfants. On l'entendra tout à l'heure, c'est l'ex-président de la CIVIS, vous vous en souvenez peut-être. Sur la couverture, un titre, « Tes droits et tes besoins comptent » et une illustration qui se détache sur le fond uni. Cette illustration est signée Maëlane Chapiron. On voit un ou une enfant noire qui tient un miroir où se reflète le visage d'un ou d'une enfant blond ou blonde qui sourit. Ce simple dessin introduit l'idée de dialogue, d'égalité, de différence, de ressemblance et présente l'esprit d'un ouvrage qui s'adresse aussi directement que délicatement à son jeune lectorat. J'aime cette image, on va parler de ce livre et de ce texte, de ces illustrations dans le cours de l'émission. Bonjour Maëlane Chapiron.
Bonjour.
Ensuite, si je vous ai invité, c'est d'abord pour évoquer le travail que vous menez avec l'association Mille Miettes, dont la mission est de prévenir les violences sexuelles, notamment en milieu scolaire. Mais pas que. Un travail important qui s'inscrit dans l'éducation à la vie affective et relationnelle, les VAR, ça c'est à l'école. Et ça, on va en parler avec Clémence Lafont, professeure des écoles. Bonjour.
Bonjour.
Des parents de plusieurs établissements, des élèves, m'ont fait part de la grande qualité du travail que vous menez, Maëlane Chapiron. Et parmi ces personnes, ma propre fille, c'est la première fois que ça m'arrive qu'un de mes enfants me fasse vraiment parler d'un sujet dans une émission. Donc ça m'a convaincue et j'ai demandé à cet enfant, on va l'appeler Olivia, tiens, pour l'occasion, de présenter le dispositif.
Elle est venue dans une salle, elle nous a raconté les choses des agressions sexuelles. Et au début, on ne savait pas vraiment pourquoi elle nous parlait de ça. Et après, elle nous a dit que c'était parce que quand elle était petite, son grand-père lui avait fait des agressions sexuelles et que du coup, elle aimerait bien maintenant dire aux enfants, enfin montrer qu'est-ce qu'il fallait faire quand quelqu'un nous fait une agression sexuelle. Faut demander à des personnes, en parler, à la maîtresse, à nos parents, ou on peut aussi appeler le 119 ou l'association Mille Miettes.
Qu'est-ce qu'elle a utilisé comme moyen pour vous parler, Maëlane ?
Elle nous a lu un livre qu'elle-même avait fait et qui s'appelait Le Loup, comme la chanson. Elle me plaît beaucoup. Elle nous a montré aussi un petit film, mais ça, c'était vers la fin.
T'as compris ce que c'était, l'inceste ?
Oui, c'est quand quelqu'un de notre famille nous fait une agression sexuelle. Et l'agression sexuelle, c'est quand quelqu'un d'autre nous fait...
Nous fait quoi ?
Nous touche nos parties intimes. C'est interdit pour les enfants et pour les adultes si on n'est pas d'accord.
Maëlane Chapiron, cette explication n'est peut-être pas exhaustive. Qu'est-ce que vous auriez envie d'ajouter ? Je précise que l'enfant qui parle est en CE2 et a 8 ans.
Je voudrais juste déjà dire que ça m'émeut de l'entendre parler comme ça. Je suis trop contente. On voit qu'elle a tout compris et qu'elle a tout bien retenu. Donc, merci beaucoup pour ce petit enregistrement. Qu'est-ce que j'ai envie d'ajouter ? Bah, je pense qu'elle a fait un petit peu le tour, hein, on peut dire. Ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que j'utilise un outil qui est clé en main, c'est-à-dire c'est un outil qui s'appelle le loup et qui est un outil de prévention des violences sexuelles qui s'adresse aux 6 à 10, 11 ans à peu près. Une chanson, un livre et une vidéo de prévention de 4 minutes. Et que voilà, je fais ça. Et après, à la fin, une fois qu'on a montré tout ça, on a une conversation avec les enfants d'environ 30 minutes pendant laquelle les enfants peuvent poser toutes leurs questions. Et les enfants ont beaucoup, beaucoup de questions. Et on peut imaginer qu'à la fin de cette intervention, les enfants sont informés, comme cette petite fille.
On le pense, on l'espère. Est-ce que, et je suppose que vous allez me dire que c'est le cas, Clémence Lafont, c'est ce que vous avez constaté. Vous êtes professeure des écoles à Paris, en REP+, donc en éducation particulièrement prioritaire. Et vous... suivez en quelque sorte ce programme depuis plusieurs années avec un travail progressif. Donc déjà, au départ, pourquoi vous avez eu envie d'aborder cette question avec vos classes ?
J'ai voulu l'aborder pour plusieurs raisons, parce qu'en tout début de carrière, alors que j'étais néo-titulaire, j'ai été confrontée à ce genre de situation des élèves victimes d'agressions sexuelles. Et je pense ne pas avoir su... avoir la réponse adaptée. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup travaillé. Par la suite, grâce à un groupe de discussion féministe, j'ai pu accéder à des textes, à des bibliographies qui m'ont fait accéder à voilà plein d'informations, notamment le podcast de Charlotte Pudlowski, ou peut-être Une nuit, notamment l'épisode bonus qui est sous forme de table ronde, lors desquels des professionnels et des personnes militantes essaient d'aborder cette problématique-là, les difficultés auxquelles ils et elles sont confrontés. Partant de là, je me suis dit que je ne pouvais plus reculer, qu'il fallait vraiment que je m'y mette. Mais alors, comment aborder, comment commencer ? Enfin, j'étais tétanisée, prise par la peur. Donc évidemment, je me suis raccrochée à quelques livres de littérature de jeunesse, mais sans vraiment trouver d'album qui parlait de l'inceste ou clairement d'agression sexuelle. Donc il y avait des contenus surtout du côté du Québec qui étaient vraiment une véritable aide pour moi. Je parle d'il y a quand même 4-5 ans à peu près. Et puis, au hasard de recherche sur Internet, je tombe sur Maylène Chapiron, son travail. Je vois son livre. Je comprends qu'il s'agit d'une œuvre aussi pluridisciplinaire parce qu'il y a une chanson, il y a une vidéo, un album qui parle de son vécu à elle, donc qui est très authentique, illustré par elle, qui est vraiment à hauteur d'enfant. Un ouvrage qui a été validé et aidé par des pédopsies. Ça, c'est très important de le signaler. Je vois aussi, et ça, c'est très important, des photos de Maylane qui intervient dans une classe. Et je me dis, c'est concret, ça arrive. Donc, je me lance, je la contacte. Elle me répond immédiatement, vraiment.
On va peut-être l'écouter raconter. Est-ce que ça arrive souvent que des professeurs des écoles vous appellent ? Comment on fait appel à votre association ? C'est pas la seule association qui intervient dans les écoles. On prend cet exemple-là parce que vous parlez aussi des droits des enfants et ça va nous permettre de faire le lien, et puis parce que c'est un travail de grande qualité. Alors comment vous recevez ces appels ?
Alors c'est très drôle parce que Clémence est vraiment une des premières qui m'a écrit. J'avais même pas encore d'assaut. J'avais fait ma première séance grâce à l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance de Mayenne qui m'avait invitée dans une école. Et donc j'avais fait ma première séance. Je m'étais dit mais en fait bien sûr ça marche. Évidemment j'avais raison. Cet outil marche. Les enfants n'ont pas peur. Les enfants sont informés. Il faut y aller. Je veux en faire d'autres. J'avais mis une photo donc sur les réseaux sociaux et c'est cette photo que Clémence a vue. Et donc, c'est vraiment une des premières qui m'a écrit. Et aujourd'hui, j'ai monté une asso. Elle a été créée en 2024, donc elle est très jeune. Et aujourd'hui, il faut écrire à l'asso. L'adresse mail, c'est hello@millemiettes.org. Et on reçoit énormément de demandes quotidiennement.
Ce qui signifie qu'il y a un grand besoin. Alors, vous vous adressez pas seulement aux écoles, mais aussi aux centres de loisirs.
Oui, on a fait des séances en centre de loisirs, en colo, en foyer depuis peu. Et voilà. Donc, notre mission, je crois, chez Mille Miettes, c'est bien sûr, on fait des interventions, mais c'est aussi et surtout d'accompagner les pros dans la prévention. Parce que le but, c'est pas que nous, on aille dans les écoles au maximum, on sera jamais assez nombreux. Nous, les assos, il y a beaucoup d'assos, comme vous le disiez. Le but, c'est que tout le monde se saisisse de prévention. Quand je dis tout le monde, c'est pas que les profs, c'est bien sûr, évidemment, beaucoup les profs. Les profs m'intéressent parce qu'ils ont accès à tous les enfants, mais c'est toutes les personnes en charge de l'éducation et de la protection des enfants, donc tous les adultes protecteurs.
Les parents aussi,
bien sûr.
Puisque ces contenus, on peut se les procurer. J'ajoute qu'il y a des affiches qu'on peut télécharger donc sur le site de votre éditeur, La Martinière Jeunesse, qu'il faut aussi donc citer. Du côté de l'école, quand on cherche à monter un dispositif, qui il faut convaincre, comment on s'y prend, parce qu'il suffit pas de passer un coup de fil à Maïlan Chapiron, même si elle décroche.
Ah non, bien sûr. Non. Il y a plein de choses à débloquer, hein. Des peurs, évidemment. Ça, c'est la première chose à débloquer.
Les peurs de qui?
De moi, en l'occurrence. De moi en tant qu'instit. Parce que vraiment, le sujet reste tabou, mais il y a quelques années de ça, il était encore plus difficile à aborder, je pense. Alors, moi, ce que je vais vous dire, c'est que je n'aurais pas pu... Alors, il y a eu cette rencontre avec Maïlan, mais surtout, j'en ai tout de suite parlé à une conseillère pédagogique, Anne-Laure Guerre, de ma circonscription. Je peux nommer
vous
ma circonscription.
Dites ce que vous voulez.
La circonscription de la 18C.
Donc, dans le nord de Paris,
ouais, exactement,
très populaire.
Un quartier populaire de REP+, donc, et deux autres conseillers pédagogiques également, Arnaud Meyer et Benjamin Joron, mais aussi et surtout notre inspectrice de circonscription qui tout de suite m'a fait confiance et a compris l'importance de ces enjeux-là. Le rapport de la CIVIS, ça a été vraiment un texte support également. Le rapport de la CIVIS du juge Durand, parce que j'ai pu, si vous voulez, apporter une argumentation claire et chiffrée aussi de l'impact que ça pouvait avoir sur la scolarité des enfants, leur vie future adulte, etc. Donc, ça a été un vrai déclencheur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait?
On peut juste ouais, rappeler, donc, le rapport de la CIVIS est 2023-2024. La CIVIS, on détaille l'acronyme, c'est la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Mmh. Des centaines de Françaises et de Français ont témoigné de ce qui s'était passé pendant leur enfance. C'est plutôt des adultes qui ont témoigné. Ça a beaucoup, faut-il le rappeler, marqué les esprits à l'époque.
Oui. Tout à fait. Donc, ce qui m'a vraiment beaucoup aidée, c'est la force du collectif, de me sentir soutenue et accompagnée par ma hiérarchie. Je tiens aussi à expliquer que je suis dans une école de REP+, qui bénéficie quand même de la présence d'un RASET complet, d'une assistante sociale.
Un RASET, c'est un professeur.
Oui, ce sont des aides qui peuvent aider.
Spécialisés.
Exactement, qui vont prendre des petits groupes à part, soit pour des dominantes comportementales, soit pour des dominantes pédagogiques. Donc des difficultés, voilà. On a également une médecin scolaire qui est très engagée dans ce projet, une psy-IEN également, une psy-EN.
Une psy de l'éducation nationale, dont
exactement.
On manque beaucoup par ailleurs, parce que
exactement.
Les moyens que vous avez en REP+, c'est à la fois une zone difficile et à la fois vous avez des moyens un petit peu
oui.
supérieur à ce qu'on peut trouver
exactement.
Dans d'autres circonscriptions scolaires.
Ce qui a été très facilitant, parce que tout de suite, quand j'en ai parlé, j'ai senti vraiment une grande envie d'en être, si vous voulez. Et je tiens d'ailleurs à vous dire que notre médecin scolaire est en train de mettre en place des ateliers à destination des parents pour leur apprendre à accueillir la parole de leur enfant et faire de la prévention aussi à leur niveau. Parce que nous, si vous voulez, là maintenant, aussi grâce aux conseillers pédagogiques et à notre inspectrice. On est formés. On a eu notamment, grâce au conseiller pédagogique, j'insiste, l'intervention de l'UAPED, c'est-à-dire de l'unité d'accueil pédiatrique enfants en danger de l'hôpital Robert Debré, avec des pédopsies et des puéricultrices, Claire Viardot, Tania Ikowski et Mathilde Perdian, mais aussi de l'ASE, c'est-à-dire l'aide sociale à l'enfance du 18e. Ces personnes-là nous ont formés sur comment ça se passe, une agression sexuelle, comment identifier les signaux, quelles sont les erreurs à ne pas faire quand on accueille la parole et quelle est notre mission à nous. Et ça, c'est très important.
Parce qu'il y a un petit enjeu à accueillir la parole, et je me tourne vers Maïlan Chapiron, dans un cadre collectif. Puisqu'on est dans une classe,
mm-hmm.
on a une discussion avec des élèves, par exemple, ils ont eu 7-8 ans, c'est mm-hmm. petit. Il y a des choses qui peuvent sortir.
Bien sûr.
Pour pouvoir les écouter. Je me suis vraiment interrogée sur le frein ou la puissance que pouvait représenter le fait d'être en groupe à ce moment-là, pour les enfants et pour vous d'être avec un groupe d'enfants en face, parmi eux. Je ne sais pas comment vous vous situez d'ailleurs.
Le frein à quoi ?
le frein à la parole.
Je pense que ça... Évidemment, ce genre de séances peuvent... Enfin, il peut y avoir des révélations d'enfants à l'issue de ces séances, ou même pendant ces séances, bien sûr. Parce que là, on va aborder un sujet dont ces enfants n'ont jamais entendu parler, ni n'ont jamais parlé. Donc, on peut imaginer qu'un enfant qui vit ça, tout d'un coup, se dise « Ah, mais en fait, ça, c'est ce que je vis. » Un enfant qui ne savait pas ce qu'il vivait. Donc, évidemment, il peut y avoir des révélations. Ça n'arrive pas à chaque fois. Et c'est ce qui fait le plus peur aux professionnels, ça, les révélations. Les pros n'osent pas y aller parce qu'ils se disent, tiens, s'il y a une révélation, qu'est-ce que je vais faire? Quelles vont être les suites? Comment ça va être accueilli? Comment vont réagir les familles? Comment va réagir ma hiérarchie? Et c'est pour ça que je crois que c'est hyper important, comme dans ce qui se passe dans le 18e avec ce grand projet, c'est hyper important que les pros soient vraiment en équipe. Là, c'est assez beau ce qui se passe dans le 18e parce que c'est un projet où, d'une instit, tout d'un coup, toutes les personnes de l'école, peu à peu, se responsabilisent et se disent « Ah, mais en fait, c'est ça qu'il faut faire. » Et on les voit, ils sont de plus en plus nombreux. Au début, elle était seule. Et puis voilà, les conseillers pédagogiques se sont dit « Allez, il faut qu'on le fasse à grande échelle. » Donc là, on monte un projet qui grandit d'année en année et c'est hyper encourageant. C'est un projet qui est très, très encourageant et qui me donne beaucoup d'espoir pour la suite. Et en effet, bon, ces séances peuvent susciter des révélations. Après, il y a des assos qui vont être beaucoup plus concentrés sur justement le repérage, qui vont favoriser des petits groupes, des petits ateliers en petits groupes pour encourager les enfants à révéler des violences éventuellement, etc. Mon intervention à moi ou l'intervention de Mille Miettes, elle vise à vraiment vraiment informer le maximum d'enfants. On est vraiment sur de l'information. Vraiment, je crois que le mouvement de cette association là, ça va être de démocratiser cette parole, sortir de ces petits cercles, sortir du silence, sortir du tabou, sortir du privé. Là, on va donner des règles de sécurité qui doivent rentrer comme des enseignements basiques, comme du français, comme des maths, comme apprendre à compter. On doit apprendre 2-3 règles, c'est vraiment pas grand-chose. Et ça, c'est vraiment ce que je répète tout le temps. C'est pas grand-chose ce qu'on leur dit. On n'a pas besoin d'être un grand spécialiste. On va juste leur dire, ça, c'est tes parties intimes. Personne n'a le droit de les toucher.
C'est interdit par la loi.
Voilà. Bon, là, je l'ai dit rapidement. Il y a 2-3 petites précisions. Hein. Mais c'est vraiment sortir, que cette parole devienne une parole basique, qu'on en parle tranquillement, que ce soit plus... Ce matin, j'étais en intervention dans une école dans le 11e, j'ai fait 2 interventions. Dès qu'on parle des parties intimes, on les voit, les enfants, ils sont là, oh, c'est dégueu. On voit que tout de suite, on arrive dans un endroit où, faut pas en parler, c'est... Voilà. Plus ils grandissent, moins ils en parlent, plus c'est silencieux. Donc ce qu'on veut, c'est que les enfants se sentent légitime, qu'ils soient capables de parler des parties de leur corps tranquillement, que ce soit plus un endroit tellement mystérieux et tellement interdit. C'est juste ça.
Alors, on prend ce cas d'école, on le rappelle, il y a d'autres associations dans d'autres villes qu'à Paris. Évidemment, il est intéressant ce cas parce que on a vu, c'est tout un travail avec les équipes, donc les pros, comme dit Mylène Chapiron, pas seulement les enseignants et peut-être aussi en équipe avec les parents, mais on va continuer sur le recueil de la parole. Parce que accueillir la parole d'un enfant victime, d'un enfant témoin, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement risqué aussi.
Oui, effectivement, c'est une des craintes que l'on a aussi quand on se lance. On se dit, et alors, quand, si jamais j'ai des révélations, comment les accueillir au mieux? Et effectivement, lors de la première intervention de Mylène dans notre école, eh bien, nous avons eu 2 révélations d'élèves. Et c'était... On a tout de suite pu réagir, il y a eu un dépôt de plainte, il y avait notamment un agresseur sexuel qui a été identifié dans le square à côté de l'école, par exemple. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais...
D'une certaine manière, et en même temps, on sait que quand ça se passe au sein de l'école, puisque il y a parfois des affaires avec des animateurs. En fait, les agressions sur les enfants arrivent dans des endroits où il y a des enfants, donc logiquement dans les écoles, ou des agressions entre enfants.
Tout à fait.
Ça aussi, ça arrive dans les familles et dans les écoles. Mais quand ça arrive dans les écoles, l'éducation nationale ou même les instances locales, directeurs, directrices, sont pas toujours à la hauteur. On en a déjà parlé dans une émission avec la journaliste Aude Loriot, qui a travaillé sur ce sujet en particulier. Oui. Donc quand on sait que tout ça arrive, que voilà, il peut y avoir des expériences heureuses, mais aussi des agressions qui sont silenciées, qui sont ignorées, qui sont euphémisées pour pas trop faire de vagues. Comment on essaye de progresser en tant que professeur des écoles, un peu en mission comme vous, Clémence Lafont?
C'est très difficile. Déjà, c'est justement pour cela qu'on forme nos élèves, qu'on essaie de former nos équipes. Que dire, on nous a justement appris à accueillir cette parole, mais on nous a aussi expliqué quelles étaient les limites de notre champ d'action, si vous voulez. Après ça, il y a le temps de la justice. Et malheureusement, nous, en tant qu'enseignants, on n'est plus sur cette étape-là. J'avoue que ça peut être assez décourageant, justement, quand on prend conscience du temps de la justice, de tout ce qui peut être mis en place.
Et aussi le temps de l'école, parfois le temps des acteurs, parce que je vous interrogeais aussi là-dessus.
Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, sur le fait que, évidemment, il y a des agresseurs dans l'école. Oui.
Oui, et le fait qu'on... Ah oui, ne devrait pas toujours le reconnaître.
Oui, justement, c'est ça. Effectivement, je ne sais pas trop comment vous répondre, mais c'est toute l'importance en fait qu'on en parle en fait, vraiment pour agir.
Oui, je pense que d'en parler. Madeleine Chapiron. Ouais, d'en parler beaucoup, d'être pas tout seul aussi, d'être pas tout seul, de savoir qu'on n'est pas tout seul. Il y a beaucoup de pros qui ont très peur. Oui. Là, on a commencé à former les pros. On a formé, par exemple, toutes les infirmières scolaires et tous les médecins scolaires de Paris grâce à une initiative de la DSP. Et je vois bien que les pros, donc, toutes ces équipes ont très peur. Elles ont très peur. Elles se disent « Ah, qu'est-ce que je fais ?» Elles ont peur, elles se sentent déjà responsables. Voilà. Alors que quand un enfant révèle quelque chose, il faut s'entourer. Il faut s'entourer, c'est ça le premier mouvement. Et c'est ça que disait la personne justement de l'ASE qui travaille sur le 18e. Elle disait on en parle tous ensemble, on réfléchit à une stratégie de comment réagir. On reste pas tout seul. Et c'est pour ça que c'est important des projets comme ce qui se passe dans le 18e où toutes les personnes sont formées, etc. C'est justement en se responsabilisant ensemble qu'on agit le mieux.
Terré dans cette pièce, terré dans cette pièce, je me cache. Je suis prise au piège, surtout, je suis prise au piège, surtout quand je me lave. Je ne suis pas libre. Et sur le qui vive, toujours, et sur le qui vive, toujours, ça me gâche. Papa, fallait papa, venir trop près de moi. Maintenant, je sais plus très bien qui t'es. Sous cet œil, tout, je le vois lourd.
Droits de l'enfant, les enseigner, c'est protéger les plus jeunes. C'est le sujet de cette émission. Et pour bien comprendre en quoi ça peut protéger les plus jeunes, on prend l'exemple des violences sexuelles et de l'enseignement de la vie affective et relationnelle à l'école, par exemple en élémentaire. Donc Maïlan Chapiron est avec nous et Clémence Laffont, vous êtes professeure des écoles. On l'a dit, en quoi le fait de faire écouter une chanson, de montrer des illustrations, de dessiner même, permet de parler de ces questions de violence sexuelle et d'inceste aux enfants. Qu'est-ce que ça apporte pour vous qui êtes professeur des écoles?
Ça a été totalement facilitant, c'est ce qui m'a vraiment soulagée en me disant « ça y est, je peux y aller ». On est sur un médium, à la fois sur un livre, des illustrations et de la chanson. Il ne faut pas négliger le pouvoir de l'art au niveau de cette transmission-là. Je pense qu'il y a un accès à la connaissance qui est supérieur. Il y a si je peux parler un peu de tes interventions, Maïlan. Mm-hmm. Tout d'abord, Maïlan se présente et après elle explique sa démarche créative, comment l'inspiration lui vient sur le clavier, qu'elle écoute beaucoup ses émotions. Alors elle décrit comment elle va exprimer la joie, la colère, etc. Et un jour, elle explique que lui est venue une mélodie et des paroles, et en même temps une émotion très proche de la peur, de l'angoisse et de la tristesse. Quelque chose presque d'indicible et qu'elle a su quand même mettre en mots finalement. Et elle propose cette écoute aux enfants. Et elle leur demande après, dites-moi ce que vous avez ressenti. Et il y a quelque chose de l'émotion, du vecteur de l'émotion, qui apporte encore une meilleure compréhension, je pense. Donc vous avez à la fois l'histoire racontée, cette valeur de témoignage, d'authenticité qui est très forte et très importante pour les enfants. Vraiment, c'est toi, ça t'est arrivé? Ton grand-père, il t'a fait ça, vraiment? Oui, bah oui, j'en parle. Voilà. Et puis, ce dessin, ces illustrations qui se mettent vraiment à hauteur d'enfant. Je pense notamment à la figure du loup, qui est particulièrement bien trouvée, qui est très évocatrice pour les enfants, ce prédateur.
Qui peuple les contes.
Tout à fait, bien sûr.
Depuis toujours, je ne sais pas, mais les contes où le loup représente le prédateur, voire l'agresseur, c'est extrêmement ancien.
Évidemment.
Tonnes de versions du Petit Chaperon Rouge à travers.
Donc tout ça simplifie l'accès à la connaissance pour mes élèves, je pense. Ça fluidifie aussi l'échange. C'est une très bonne entrée en matière. Et après, vous avez une vidéo et vous avez ce temps d'échange, ce temps de questionnement et ce temps aussi, bien souvent, de révélation. Donc pour moi, oui, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, attends, il y a un album qui se met vraiment à hauteur d'enfant, qui utilise la métaphore, mais qui est tout de même assez concret, bien qu'il reste vraiment à hauteur d'enfant, j'insiste. Et puis cette chanson, enfin, plusieurs formes d'art agissent lors de cette séance. Très important.
Alors, je voudrais quand même juste
agir, Maïlan Chapiron.
Je voudrais juste préciser que on utilise la métaphore, mais pas tant que ça, parce que on dit c'est Miette, la petite fille dans l'histoire qui trouve qu'il est comme un loup, mais c'est pas un loup. Ça, on l'explicite bien dans l'histoire. C'est pas un loup. C'est une personne de sa famille qui se comporte comme un loup.
Vous savez, dans certaines versions du Petit Chaperon Rouge, dans les livres qu'on trouve actuellement, c'est dit à la fin, il y a des gens, il y a des loups qui ont l'air comme ça, mais dont il faut se méfier. Pour vous, en tant qu'artiste, ça veut dire quoi d'intervenir comme ça? Parce que vous continuer à produire, vous avez fait d'autres choses depuis, dans les écoles, et de faire œuvre éducative, alors auprès des enfants, auprès des adultes aussi, on l'a entendu, Maëlène Chapiron.
Je crois que c'est carrément... C'est-à-dire que c'est devenu une sorte de mission, en tout cas, c'est une mission en ce moment. J'ai l'impression d'avoir eu la chance d'avoir pu ouvrir les yeux sur ce fléau, en fait. Quand j'ai créé cet outil, je l'ai créé, on l'a un tout petit peu expliqué, presque inconsciemment. C'est-à-dire que cette chanson, elle est sortie, moi, j'ai été moi-même victime d'inceste quand j'avais 7 ans, de la part de mon grand-père.
C'est ce qu'on expliquait au Exactement. Tout début, c'est un point de départ.
C'est un point de départ. Donc moi, j'ai jamais oublié que j'avais été agressée, mais j'avais décidé que j'allais pas en faire un fromage, entre guillemets, et que j'allais être plus forte que ça, et que j'allais faire ma vie, et que ça allait pas m'empêcher. Sauf que ça m'a rattrapée par des symptômes, par un empêchement d'être, finalement, un peu tard. Et donc, j'ai fait cet outil en me disant, enfin presque comme un besoin, quelque chose de vital. Il fallait que je crée cet outil. Et il fallait aussi que je prévienne les enfants. Je me disais, mais il faut absolument prévenir les enfants. Si j'avais été prévenue, j'aurais pas perdu autant de temps avec mes 300 000 questions qui tournent dans ma tête et qui m'empêchent d'être contente pendant les anniversaires, de me concentrer à l'école ou de bien dormir. J'aurais pu avancer beaucoup plus vite et commencer un travail de réparation beaucoup plus tôt. J'aurais pas été empêchée dans ma vie quand j'avais 30 ans, etc. Donc je me suis dit, mais enfin, mais ce qu'il faut faire, c'est informer les enfants. Les enfants ne sont absolument pas informés. Ils n'ont aucun indice pour comprendre ce qui leur arrive quand ça leur arrive. Ils n'ont aucun récit de référence pour comprendre ce que c'est qu'une agression sexuelle. Quand un enfant est frappé, il peut concevoir que c'est une agression parce que c'est violent. Une agression sexuelle, c'est bien souvent dissimulé sous des caresses, des chatouilles, de l'amour, tout simplement, des câlins. Donc un enfant... le temps qu'ils comprennent ça, qu'ils remettent le monde à l'endroit et qui valident son ressenti, qu'ils se disent « Ah, mais en fait, cette personne qui est censée me protéger m'agresse », il faut beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup de chance aussi pour glaner les 2-3 infos dans une vie.
Clémence Lafont, vous êtes professeure des écoles, en quoi ce sujet intéresse tous les enfants ?
Eh bien, tout simplement, les chiffres... Ah, en quoi ils l'intéressent ?
Oui, tous les enfants, puisque on parle de 3 enfants par classe. Et
oui, tout à fait, c'est ce que je dis.
C'est hyper important.
Voilà, c'est ça.
Mais pourquoi les autres enfants ? Moi, j'ai une idée de la réponse que je donnerais à votre place. Mais c'est vous qui êtes professeur des écoles. Une idée sur la question ?
En quoi ça les intéresse ? J'ai le sentiment qu'on les prend au sérieux, qu'on veut respecter leurs droits, leur montrer qu'on est du côté du droit et de leur côté aussi. C'est aussi ça qui les intéresse. Et je pense que les enfants comprennent très bien que en menant ces séances, on leur veut du bien. Et je pense que c'est ça aussi qui font qu'ils sont particulièrement attentifs.
Est-ce que c'est porteur pour les apprentissages ?
Oui.
Les apprentissages, on parle des fondamentaux, maths, français,
mais là, on a,
sciences.
On a
parlé... Moi, j'en donnerais plein des fondamentaux à l'école.
Maëlan, on a parlé tout à l'heure, en fait. Un enfant agressé sexuellement, traumatisé, incesté, c'est un enfant qui va être perturbé aussi, qui va être empêché d'apprendre, qui sera un peu dans l'évitement, qui sera habité par des pensées très envahissantes. Favoriser un climat scolaire serein, favoriser le bon apprentissage des enfants, c'est aussi leur permettre, comme le parlait tout à l'heure Maëlan, de se libérer aussi.
Mmh. Quid des oppositions ? On a entendu récemment, même à l'Assemblée nationale, des discours contre l'éducation à la vie affective et relationnelle à l'école. Il n'y a pas le sexuel en primaire, donc en maternelle ou en élémentaire. Des parents aussi qui parfois s'y opposent ou simplement posent des questions. Il y a des petits mouvements, il y en a eu aussi par le passé. Je repense aux ABCD de l'égalité. Qu'est-ce que vous faites, Maëlène Chapiron, de ces oppositions ? Puis Clémence Lafont, vous allez répondre aussi.
Je crois que beaucoup de parents ne savent pas de quoi il s'agit, en fait. Ils ne savent pas ce qu'on va leur dire quand on leur dit qu'on va parler des violences sexuelles et de l'inceste. Ça leur fait peur. Ils se disent, mais là, vous allez leur mettre des idées dans la tête auxquelles ils n'ont même pas pensé. Ils ont peur Oui, qu'on leur parle de sexualité. Or, c'est pas du tout ça qui va se passer. Et c'est ça qu'il faut dire à ses parents qui ne savent pas, tout simplement, ce qu'on va leur dire. Il faut vraiment réorienter ça en disant à ses parents qu'on ne va pas parler de sexualité adulte. C'est ça qui leur fait peur. Ils pensent qu'on va leur parler de sexualité adulte. Or, dès qu'on parle des parties intimes, dès qu'on parle du corps et des organes génitaux, par exemple, c'est de la sexualité. On parle de sexualité. Et là, dans cet enseignement-là, dans la prévention des violences sexuelles, il faut bien leur dire qu'on ne vient pas du tout leur donner des idées bizarres, on vient juste leur donner des règles de sécurité. C'est des règles de sécurité. Il faut vraiment qu'ils l'appréhendent de cette façon-là. Donc, on vient leur dire... Ça, c'était partie intime. Personne n'a le droit de le toucher à partir du moment où tu es autonome. Et si quelqu'un essaye de le faire quand même, ou si quelqu'un veut que tu touches ces parties intimes, alors c'est une agression sexuelle. Voici ce qu'il faut faire si tu es agressé sexuellement. C'est tout. C'est des règles de sécurité. C'est comme si on leur disait, les voitures, ça roule vite et si on se fait écraser, on peut mourir. Donc, voici ce qu'il faut faire pour ne pas se faire écraser. Il faut attendre de traverser au rouge. C'est exactement pareil. Et donc, quand les parents arrivent à comprendre ça, et ben, ils ne s'inquiètent plus. Et les enfants, on a aussi peur de leur faire peur, de qu'ils se disent « Ah, au secours, tout le monde va m'agresser !» Mais les enfants n'ont absolument pas peur. Si nous, on est déchargés de notre peur, c'est nos peurs à nous, c'est toujours la même chose. On a peur de nos peurs. Nos peurs. Parce que nous, les agressions sexuelles sur mineurs, ça nous évoque des choses terrifiantes. Un enfant n'est pas chargé de toutes ces images que nous, on charrie. Un enfant n'a pas peur du tout. Donc, il prend ces informations de sécurité hyper tranquillement. Les enfants, après les séances, n'ont pas peur, mais sont rassurés parce qu'on vient de leur apprendre comment se protéger. Et ils sont même contents, ils adorent. Ça leur fait super plaisir qu'on leur fasse confiance et qu'on leur parle pour la première fois d'un sujet tellement mystérieux. On voit bien dans l'audio de l'enfant de tout à l'heure, votre fille, qu'elle était contente.
En même temps, peut-être que ce sont des sujets qui, moi, s'ils ne me font pas peur, parce que ce serait un peu bizarre de dire que ce ne sont pas des peurs qui traversent l'esprit des parents, en tout cas, qui, moi, m'intéressent aussi. Et oui. Il y a toute une littérature adulte, on peut penser à La Famille Agrandée, on peut penser aux livres de Neige Sino, qui nous ont tous, toutes celles, plus des femmes, mais aussi des hommes qui les ont lus, nous ont permis d'avancer sur cette question. Je pense à l'ouvrage hyper important de Dorothée Ducy, mm-hmm. Le tombeau des...
Le berceau,
ce serait plus des intéressant, dominations. des dominations. Et bien sûr, au podcast, ou peut-être une nuit de Charlotte Pudlowski, j'ai pas oublié la question que je venais de poser à Mylène Chapiron sur les oppositions qui peuvent venir de certaines personnalités politiques, de certains groupes, de certains parents. Clémence Lafont, professeure des écoles.
Alors moi, ce que j'en pense, j'ai été confrontée à ça la première année. Et puis on s'est mis d'accord aussi en équipe, on s'est dit qu'on allait l'annoncer, si vous voulez, lors des réunions de rentrée aux parents. On leur annonce aux parents, écoutez, voilà, dans le cadre du programme EVAR, il y a un volet protection de l'enfance et nous allons travailler donc sur cette prévention aux violences sexuelles. C'est la loi, c'est comme ça.
C'est la loi.
Exactement. Mmh. Donc là, déjà, ça calme tout le monde. Ça calme les fantasmes aussi. On fait aussi de la pédagogie auprès des parents. Moi, je leur explique que je construis une séquence d'apprentissage qui se décline en plusieurs séances très progressives. Je m'appuie lors de ces séances sur des albums, sur des chants, sur de l'art. Et très progressivement, si vous voulez, la dernière séance de cette séquence, la conclusion, ça va être la venue de Mylène Chapiron. Mais ce qui rassure vraiment les parents, c'est qu'on leur dit, voilà, on va juste leur apprendre ce que c'est, premièrement, que les parties intimes, exprimer le consentement, les limites corporelles, l'intégrité corporelle. On va leur apprendre aussi, c'était très important, j'utilise un album qui est vraiment très bien là-dessus, qui s'appelle « Les petits et les trop gros secrets » de Mylène Vigneault, sur... l'importance de ce que c'est qu'un secret. Il y a des secrets légers, mais qui sont toujours voués à être révélés au bout d'un moment. Les secrets bonbons. Et ça, elle en parle, Mylène, lors de ses interventions. On parle le même langage, et ça, c'est important. Les enfants étaient préparés. On va expliquer que, voilà, on dit rien pendant quelques jours, on prépare une surprise à papa ou à maman, voilà. Les autres secrets qui sont lourds et qui font mal, ceux-là, il faut les évacuer. Quelque chose de très important aussi, et là je m'inspire vraiment de mes collègues québécois, québécoises, c'est l'importance d'être attentif à ses sensations corporelles. Est-ce qu'en dedans ça fait oui? Est-ce qu'en dedans ça fait non? Et on travaille là-dessus avec les élèves, on fait des petites scénettes, des jeux de rôle, pour apprendre à identifier si en dedans ça fait oui, en dedans ça fait non. Et à ce moment-là, si j'ai été assez à l'écoute de mes sensations, de mon corps, je suis en capacité de dire non. On parle aussi du non, de ce non-là qui doit être accepté. Accepter le non, verbaliser le non aussi. J'insiste sur ces limites-là. Donc, et puis aussi une autre séance. Chaque item que je viens de vous décliner fait l'objet d'une séance, en plusieurs temps. Et une séance aussi très importante, c'est j'identifie les adultes de confiance autour de moi. Et ça, c'est tout un travail. Et on essaie de comprendre pourquoi, si je me sens en danger, si j'ai de la peine, si j'ai été agressée, à qui je m'adresse. Et ça, c'est important. Et j'ai envie de dire qu'à la fin de cette séquence d'apprentissage, les élèves sont normalement, j'allais dire parfaitement outillés, sont outillés en tout cas. Je sais écouter mon corps, je sais écouter mes sensations. Je sais ce que c'est le consentement, je sais comment le verbaliser, je sens comment l'exprimer. Je sais comment le recevoir, je sais comment recevoir un non. Et je sais qui appeler, qui aller voir, qui est ma personne, qui sont mes personnes de confiance. Et je sais nommer mes parties intimes avec précision également.
Ça, les enfants m'en ont parlé. On va quand même revenir sur les oppositions et les craintes, parce que ce qui est possible dans votre école ne l'est pas partout. Puisque dans cette émission, il est question du droit, je voulais revenir sur l'ouvrage dont j'ai parlé au tout début, « Tes droits et tes besoins comptent ». Donc, vous l'illustrez, Maïlan Chapiron, et c'est Édouard Durand qui en signe le texte. Enfin, je suppose que vous êtes d'accord avec ce qui est écrit. Donc, je rappelle, Édouard Durand, c'est un magistrat très engagé dans la protection de l'enfance et la lutte contre les violences conjugales, violences faites aux enfants. Il avait co-présidé la CIVIS, la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, de 2021 à 2023, je le rappelle également. Et je l'ai appelé. Voilà, il était sur la route, il s'est arrêté, il était dans sa voiture, et on a parlé de ce livre, du sens du droit pour faire société, et pour faire société aussi avec les enfants, et puis de l'objectif d'un album jeunesse qui s'adresse à ces derniers, les enfants des 6-7 ans.
J'ai eu 3 objectifs qui m'ont guidé dans l'écriture de ce livre. Le premier objectif était de ne jamais dissocier les droits des enfants et les besoins des enfants. De ne pas énoncer les droits comme un instrument de revendication, ni dénoncer les droits comme une responsabilité pesant sur les épaules des enfants eux-mêmes. Vous avez des droits, exercez-les. Mais de dire aussi que ces droits correspondaient à ce qu'on appelle le développement de la personnalité des êtres humains dans leur enfance et à l'âge adulte. Le deuxième objectif était de m'adresser aux enfants eux-mêmes. Et le troisième objectif était de m'adresser aussi aux adultes pour que cette proposition de conversation les concerne eux aussi directement.
On comprend que le droit, ça pourrait être quelque chose qui crée du lien.
Des liens au sein de la famille, si l'on prend spécifiquement le droit de la filiation, des liens dans les relations mutuelles entre les personnes au sein de la famille ou à l'extérieur de la famille, si l'on réfléchit au droit de l'autorité parentale, qui institue des rapports et des responsabilités entre les parents et leurs enfants et l'âge venant entre les enfants et leurs parents, et des liens qui sont aussi des liens qui vont innerver la totalité de l'existence d'une personne, y compris à l'âge adulte. Le droit, en tant que construction sociale, préserve et tisse des liens pour l'existence entière, parce que le respect des besoins fondamentaux des enfants est la condition même de la possibilité de se construire et de vivre en société, en relation avec les autres, en prenant toute sa place.
Vous avez donc été présidente de la CIVIS, vous avez recueilli la parole d'énormément de Françaises et de Français sur l'inceste, les violences sexuelles subies par les enfants. Aujourd'hui, vous parlez des droits et des besoins des enfants. Donc, je suppose que pour vous, il y a un lien, évidemment. Comment vous formuleriez ce lien entre ces deux sujets ?
Ce que la CIVIS a montré, c'est que jamais nous, en tant que société, n'avons été aussi capables de nous représenter ce que vivent, ce que subissent, ce que souffrent les enfants victimes de violences sexuelles et notamment d'inceste, qu'en écoutant les adultes que ces enfants sont devenus. Jamais les émotions, la volonté, l'espoir d'être protégé des enfants victimes de violences aujourd'hui et maintenant n'a été mieux entendu que lorsque des adultes qui ont été victimes de ces violences dans leur enfance ont pris la parole pour témoigner. À chaque fois qu'un homme ou une femme a rejoint la CIVIS, cette personne disait « Je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour qu'aucun enfant ne subisse ce que j'ai subi. » Autrement dit, les droits et les besoins des enfants aujourd'hui ne s'arrêtent pas à la porte de sortie de l'enfance. C'est ce qui nous fonde. Et je le dis parfois, nous oublions trop vite que nous avons tous été des enfants.
Parler des droits aux enfants d'aujourd'hui, c'est aussi chercher à les protéger ?
Oui, bien sûr. L'énoncé des droits des enfants doit être un appel à la responsabilité collective de protéger les enfants et de leur donner le droit de grandir. La dimension sociale de l'éducation et de la protection des enfants est une urgence collective, un projet politique absolument essentiel.
La dimension sociale de l'éducation, donc au droit, nous dit le juge Durand. Maïlan Chapiron, vous qui illustrez cet ouvrage, Tes droits et tes besoins comptent, un ouvrage qui, en 12 chapitres, explore 12 droits fondamentaux de la Convention internationale des droits de l'enfant qu'on va célébrer le 20 novembre. En quoi cette question du droit vous a intéressé et comment vous avez illustré d'ailleurs ces droits ? Comment vous avez mis des images sur ce qui est aussi des notions parfois un petit peu plus abstraites, plus théoriques.
Moi, je suis partie donc de cette volonté d'informer les enfants sur les violences sexuelles en premier lieu, parce que je me suis rendu compte que les enfants n'étaient pas informés. Donc, c'était ça le point de départ. Ils n'étaient pas informés. C'est-à-dire que on ne les informait pas sur leurs droits. Ensuite, pendant mes séances, il y a plein d'enfants qui disent « Ah, mais attends, du coup, quand on nous donne une fessée, est-ce que c'est une agression sexuelle puisque c'est une partie intime ?» Ça, j'en ai beaucoup. Mais ce matin, il y a un petit garçon qui m'a posé cette question. Alors là, quand je leur dis qu'on n'a pas le droit non plus de les frapper, les enfants, mais vraiment, c'est complètement fou comme information pour eux. Ça, c'est une information qu'ils n'ont pas. Donc, les enfants grandissent sans connaître leurs droits, avec un monde qui est complètement à l'envers, c'est-à-dire que ils sont violentés, agressés sexuellement, je me permets de le dire comme ça parce que quand on voit les chiffres, c'est pas qu'un enfant ou deux, c'est 160 000 enfants par an, c'est 2 à 3 enfants par classe, ils sont violentés par des personnes qui sont censées les protéger. Donc un enfant grandit de travers, c'est-à-dire que si c'est la personne qui prend soin de moi, qui m'agresse, c'est des informations complètement incohérentes qui vont complètement l'empêcher de grandir normalement avec une perception du monde à l'endroit. Leur ressenti ne va pas être en adéquation avec ce que devrait être un monde à l'endroit. Donc ces enfants, on a un risque qu'ils aient de grandes conséquences sur leur santé et de grandes conséquences sur leur santé physique et psychologique. Et on prend aussi le risque que ces enfants reproduisent ces violences. Donc c'est pour ça qu'il était important pour moi et pour nous, bien sûr, avec Édouard Durand, d'informer, de continuer ce travail, d'informer les enfants sur leurs droits. Et ensuite, comment j'ai illustré ça ? Rien.
Le droit d'être protégé, par exemple.
Alors ça, c'est marrant parce que c'est une des illustrations préférées d'Édouard Durand, justement. C'est comment illustrer ça? Bah, en fait, je crois que c'était assez facile. Voilà, il y avait les textes d'Édouard Durand. On voit comme il parle, Il a vraiment une façon de s'adresser aux enfants qui est très douce, qui est très sérieuse et douce à la fois. Et je me suis imprégnée de ces textes. Je me suis laissée guider par mon émotion, une fois de plus mon ressenti. C'est comme ça que je travaille beaucoup. Et voilà, les images sont nées comme ça. Je vous remercie d'avoir remarqué que les enfants de la couverture, on ne savait pas si c'était des filles ou des garçons. C'est fait exprès.
Je savais que c'était fait exprès, enfin, je m'en suis doutée. Mais j'aime bien aussi le motif du miroir, parce que on se regarde, on regarde l'autre, et c'est peut-être avec et par ce dialogue à la fois intérieur et collectif qu'on s'éduque, qu'on grandit. Je précise que dans les droits, il y a celui donc de vivre en famille, de s'exprimer et d'être entendu, le droit à la santé, le droit à l'éducation et aux loisirs. Mm-hmm. C'est dans le même chapitre. Je ne vais pas tous vous les réciter, ni vous réciter la Déclaration internationale des droits de l'enfant. Ils ne sont pas toujours complètement mis à l'honneur à l'école. Comment vous faites avec les injonctions contradictoires à la fois exercer une forme d'autorité dans votre classe, Clémence Lafont, et puis enseigner aussi ce que c'est que les droits de l'enfant, si vous le faites.
Oui,
je pense que vous le faites.
Évidemment. Alors, c'est simple. On met en. L'idée, c'est d'avoir un cadre qui rassure les enfants qui permette à tout le monde de vivre dans cette micro-société qu'est la classe. On travaille ensemble sur les règles de classe, et on a une à deux fois par semaine, je parle du cas de ma classe à moi, mais des temps de forums, de réunions, de régulation entre élèves, où leurs voix et leurs propositions sont vraiment écoutées.
Inspirée par la pédagogie Freinet, puisque en gros c'est ça, ou par des pratiques que vous avez piochées dans...
Ah oui, alors c'est très empirique. Moi, j'ai pioché un peu partout, effectivement. Y a un système qui fonctionne très bien auprès des enfants. Donc, on fait des débats, des discussions avec un ordre du jour. Mais il y a un temps qui est très précieux pour les élèves qu'ils attendent vraiment toute la semaine. C'est le moment où on ouvre la boîte aux lettres de la classe. Alors, moi, dans ma classe, c'est un peu du semi-flexible. Il y a un coin qui est dédié spécialement à l'oralité, au débat. Et cette boîte aux lettres, il y a vraiment un affichage, on en parle dès le début de l'année. Elle sert à écrire des mots anonymes. On peut faire des compliments, des remarques, poser des questions, exprimer une peur, quelque chose de négatif, et on le lit ensemble et on essaie de trouver des solutions ensemble. Et moi, ça m'a fait vraiment avancer dans ma pratique, et ça a permis aussi aux enfants de co-construire aussi, d'être vraiment acteurs et partie prenante dans le parcours pédagogique. On a monté des projets parce que j'ai senti une vraie impulsion de leur part. Sentir qu'ils ont aussi du pouvoir et que leur voix compte, tout simplement.
Et ça, être consulté, être entendu, c'est vraiment un article de la Convention internationale des droits de l'enfant. En plus, écrire, ça fait...
Oui,
ça permet de travailler des compétences en langue, donc c'est pas mal. Je me demande, mais je crois que vous pourrez pas me répondre, pourquoi tout ça va souvent, le plus souvent, être lettre morte, justement, au collège et dans le secondaire, où on va... Il y a des élections de délégués, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne dans le secondaire. Peut-être qu'il faudra faire une autre émission sur la démocratie à l'école, et je pense que je la ferai. Je voulais parler d'enfantisme. D'abord, parce qu'en préparant l'émission, j'ai vu qu'il y avait une manifestation enfantiste. Dimanche 15 novembre, donc dans toute la France, dans plusieurs villes. L'enfantisme, c'est défendre la cause des enfants, leurs droits, comme le féminisme porte la cause des femmes. Et donc j'ai parlé de cette notion qui est pas si évidente, qui est peut-être même subversive, avec un membre d'enfantiste, le collectif d'activistes contre les violences faites aux enfants et aux ados. Il s'appelle Gabriel Allégret, il est doctorant en sciences politiques. Il va donc nous expliquer qui sont les enfantistes.
Aujourd'hui, les enfantistes sont en grande partie des jeunes parents, des jeunes professionnels qui se posent des questions sur l'éducation qu'ils et elles ont reçue pendant leur enfance. Ce sont des personnes qui ont toujours trouvé que les violences subies, que les violations de droits, c'était pas normal, et qui s'interrogeaient déjà sur d'autres façons de faire. Et quand le mot d'enfantisme est apparu. Quand le mouvement enfantiste a commencé à se constituer, il apportait un ensemble de réponses pour dire à ces personnes « Votre indignation n'est pas une émotion individuelle, c'est quelque chose de collectif, elle s'inscrit dans une remise en cause beaucoup plus profonde de la société. » Quand on parle d'enfantisme, certaines personnes nous répondent « Mais c'est dangereux, vous êtes en train de politiser l'enfance. » Et ça, c'est fondamentalement une illusion, parce qu'on voit que les jeunes personnes descendent dans la rue, les jeunes personnes s'engagent dans des associations, dans des mouvements militants. C'est pas quelque chose qui est récent, on l'observe dans le monde entier depuis des décennies, voire des siècles. Les enfants ont toujours fait partie des mouvements politiques. Les enfants ont participé à 1789, les enfants ont participé à la Première Guerre mondiale. Donc l'idée qu'il y aurait le domaine des enfants qui serait séparé du domaine des adultes, c'est fondamentalement un mythe, et ouvrir les yeux sur ce mythe, c'est réaliser que les enfants, dès leur naissance, participent à la vie sociale et dès le moment où ils ont envie de le faire, ils participent aussi à la vie politique de la société. C'est non seulement souhaitable, mais nécessaire de penser fondamentalement les choses de façon différente et de considérer les jeunes personnes comme des sujets de droit. De plus en plus, on voit de jeunes personnes s'intéresser à l'enfantisme, on voit des ados et des enfants qui commencent à se poser des questions, et donc on a aussi grand espoir que l'enfantisme, qui est aujourd'hui porté en grande partie par les adultes, demain soit autant porté par des adultes que par des enfants.
Gabrielle Allégret, Maëline Chaperon, est-ce que vous êtes enfantiste ?
Évidemment.
Est-ce que vous pensez qu'il faut politiser l'enfance ?
Bien sûr, c'est la suite logique du féminisme. Et j'invite tout le monde à venir samedi à la manif enfantiste avec nous.
Pour défendre les droits des enfants, est-ce que vous avez... pas peur que ça oppose des gens à cette idée de protection de l'enfance, d'en faire quelque chose de très militant. Vous voyez, ça peut cristalliser des oppositions.
Je sais pas. Je pense que on doit passer par là parce que ça fait depuis longtemps qu'on essaye de sensibiliser tout le monde à la cause des enfants et que ça fait vraiment de nombreuses années qu'il y a des histoires de violences sexuelles qui sortent et qui sont à nouveau silenciées. À chaque nouvelle histoire de grande agression sexuelle, tout le monde s'indigne et puis ensuite tout le monde oublie. Donc je crois que si ça ne passe pas par un mouvement social fort, on ne nous entendra pas. Donc il faut continuer.
Vous pensez que c'est le travail de l'école de faire avancer une cause qui se dit politique, Clémence Laffont?
Oui, pour ma part, oui, j'en suis convaincue, oui. Je pense qu'il faut aller dans ce sens-là, tout à fait.
C'est des engagements qu'on peut prendre partout, les territoires sont assez différents en France, donc comment convaincre ? Si c'est ce que vous voulez faire, si vous travaillez demain dans une école, je sais pas, dans un autre département, dans un milieu différent, rural ou urbain.
Comment, au sein de mon école, je peux faire valoir ces idées-là ? Eh bien, je sais pas trop. Moi, j'essaie dans ma pratique au quotidien, auprès des parents, auprès de mes collègues, dans ma démarche auprès des enfants également. Je pense que ça infuse d'une certaine façon.
Si je peux me permettre,
ouais, Chaperon.
Si je peux me permettre, j'ai la solution. Il suffit, comme le disait tout à l'heure Édouard Durand, de se souvenir qu'on a été nous-mêmes des enfants. C'est vraiment ça. C'est pas les enfants et les autres, c'est nous qui avons aussi été des enfants. Souvenons-nous de ce que c'est que d'être un enfant, que de ne pas avoir de voix, en fait. Et c'est vraiment en faisant ce travail-là qu'on peut très très facilement avoir envie d'être acteur et se responsabiliser pour la sécurité et les droits de tous les enfants.
Merci beaucoup, Maëline Chaperon. On n'a pas eu le temps d'écouter la deuxième chanson de vous, mais je la conseille. C'est Autopilote. Je l'ai particulièrement aimée. Je conseille aussi un podcast. Qui c'est qui commande? Il est signé Lolita Rivet, qui est professeure des écoles et productrice de podcasts. Elle avait fait C'est quoi l'amour maîtresse? Et il a reçu le soutien du défenseur des droits. Donc, qui c'est qui commande? C'est vraiment un programme pour parler des droits des enfants dans la société d'aujourd'hui et des questions que ça pose. Les intervenants sont hyper intéressants, on entend pas mal d'enfants et d'ados. Je voulais remercier Avril Ventura, qui est adjointe à la production d'Être et Savoir, ainsi que François Richer, qui a réalisé cette émission, et Timothée Hubert, qui était à la technique. Et alors, je saute sur un autre sujet rapidement. Une étude menée dans le cadre du programme In Situ, c'est un programme universitaire, montre que l'université génère 4 milliards d'euros, enfin sur 6 universités d'activité économique et plus de 80 000 emplois dans le territoire français. Sur 6 universités, c'est pas mal et on parlera bientôt de la fac dans Être et Savoir.